Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation. Aujourd'hui, venir étudier en France. Nous sommes en pleine période des dossiers de candidature auprès des agences Campus France. La France qui est la quatrième destination mondiale des étudiants étrangers derrière les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie. Première destination francophone au monde. Mais à la 7e place, on trouve le Canada, bilingue, français-anglais, qui progresse régulièrement pour accueillir les étudiants, notamment africains. Alors la France est-elle toujours compétitive pour ses études supérieures? Que pensez-vous par ailleurs des procédures d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur, que ce soit les écoles privées, les universités publiques? Appelez-nous dès maintenant pour poser vos questions, nous parler de vos difficultés et aussi bien sûr de vos satisfactions. Je vous donne notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Surtout n'attendez pas la fin de l'émission pour commencer à téléphoner parce que sinon il y aura embouteillage au standard. Alors on a pas mal d'invités pour répondre à vos questions, dialoguer avec vous. Didier Arayon et Nabil M. Silti, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous appartenez à l'agence Campus France. Vous observez d'ailleurs de près cette compétition internationale pour l'accueil des étudiants étrangers dont le nombre a doublé ces 15 dernières années dans le monde. 4 300 000 jeunes étudient hors de chez eux. C'est bien ça, Didier Arayon. C'est un chiffre qui augmente beaucoup plus vite que la population étudiante mondiale. Preuve que les étudiants ont la bougeotte. On peut dire ça comme ça.
Tout à fait, tout à fait. Et preuve que les étudiants ont pris conscience de la nécessaire internationalisation des études pour être les plus compétitifs sur le marché de l'emploi, que ça soit à l'international ou même dans leur pays, ouais. Et souvent dans leur pays.
Étudier à l'étranger, ça fait bien sûr un CV, mais ça ne fait pas tout non plus. On peut avoir un formidable parcours sans être sorti de chez soi. Nous serons également en ligne avec l'ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, et avec le conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France en Algérie, Alexis Andrès. Comment faciliter la vie des étudiants étrangers en France? Eh bien, nous accueillons également Duplex Eric Kamgang. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été étudiant?
Oui,
en
j'ai
France.
Été étudiant en France et avant j'étais étudiant au Cameroun.
Alors vous êtes un étudiant, vous êtes plus étudiant, vous êtes Camerounais de 32 ans. Mm-hmm. Et vous êtes en train de créer Studly, premier service de caution bancaire pour études en France.
Oui.
Votre start-up a été remarquée par l'Agence française de développement. Vous avez d'ailleurs gagné un prix, vous faites partie des 10 finalistes. Preuve qu'elle répond à un vrai besoin, vous nous en parlerez en deuxième partie d'émission. Je vous redonne le numéro de téléphone, les voisins, les voisines. Nous parlons des études en France pour les étudiants étrangers, 33 1 84 22 71 71. Ne ratez pas l'occasion, les voisins, de faire entendre votre voix et de vous poser vos questions sur les études en France. Je vous lis quelques messages qui nous sont parvenus sur les réseaux sociaux depuis hier. Réaction, témoignage. Hakim à Libreville au Gabon nous dit: c'est trop compliqué Campus France, on te fait faire des allers-retours pour des papiers et puis plus rien. Ou encore Toudaou qui est à N'Djamena au Tchad: je suis étudiant, je trouve Campus France très exigeant sur le plan de la procédure et de la constitution des dossiers. Ou encore Gandhi, à Goma, à l'est de la RDC: la France est manifestement fermée aux étudiants étrangers, surtout africains. Vrai, faux dans les chiffres, Didier Rayon?
Dans les chiffres, c'est totalement faux, puisque d'abord, le nombre d'étudiants étrangers qui viennent en France ne cesse d'augmenter chaque année. Campus France, en première ligne, cherche à développer, au contraire, cet accueil. Et quant aux étudiants africains, ils représentent clairement de loin le premier contingent en France, puisqu'il représente 45% des étudiants étrangers qui viennent en France, et ce chiffre ne cesse de progresser également.
Quand vous dites les étudiants africains, c'est bien sûr le Maghreb compris.
Mais le subsaharien également.
Si on enlève le Maghreb, quel est le pays le plus représenté, le pays d'Afrique subsaharienne le plus représenté?
Alors, nous sommes dans ce cas-là plutôt sur le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Gabon et Madagascar dans l'ordre.
Voilà. Ça tombe bien, on va donner la parole à l'ambassadeur de France au Sénégal dans quelques minutes. Abdoul Karim est à Antananarivo à Madagascar et il nous dit: moi j'assiste régulièrement aux conférences de Campus France. Il nous déconseille certaines filières comme la médecine parce que le taux d'échec pour les étrangers y serait élevé. Je regrette ce type de raisonnement.
Déconseiller n'est pas interdire. Et concrètement, nous préférons de loin avoir des étudiants qui s'épanouissent dans leurs études, qui réussissent leurs études, parce que c'est du gagnant-gagnant. Notre but n'est pas d'attirer des étudiants étrangers pour les mettre en situation d'échec.
Et vous êtes bien là, donc, dans les agences Campus France pour conseiller les étudiants. Je vous redonne le numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous dès maintenant pour questionner nos invités.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins. Hein?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Didier Rayon, la mobilité étudiante dans le monde ne cesse de progresser, je le disais. De nombreux pays en profitent d'ailleurs pour attirer des talents chez eux. Pas tellement la France. La France ne progresse pas, ne profite pas autant de cette progression mondiale.
La France subit, c'est vrai, un ralentissement dans sa progression, en quelque sorte. Mais c'est un petit peu la même chose pour les autres grands pays d'accueil, comme la Grande-Bretagne, l'Australie, les États-Unis s'en sortent un petit peu mieux. Et en fait, c'est dû tout simplement à un éparpillement des possibilités de faire des études à l'étranger. On va dire, pour être assez trivial, c'est un gâteau avec de plus en plus de parts et de plus en plus de pays qui ont des arguments à faire valoir. Si on prend par exemple l'Afrique du Sud, qui va drainer énormément de populations africaines de la corne de l'Afrique. Si on prend certains pays comme l'Arabie Saoudite, qui investit énormément, qui offre énormément de bourses pour faire venir ses étudiants dans des universités souvent confessionnelles.
L'Arabie Saoudite, voilà, qui était un pays tout à fait inconnu comme destination
tout
d'études pour les étudiants subsahariens il y a encore quelques années, honnêtement.
Tout à fait. Elle est passée au niveau international, est passé du 27e rang au 11e rang en l'espace de 4 ans, ce qui est considérable.
33 000 étudiants africains qui sont accueillis en 2014 en Arabie Saoudite.
Tout à fait. Et là, en fait, la stratégie est d'offrir des études. Après, donc, c'est un choix à l'étudiant de choisir s'il préfère aller en Arabie Saoudite ou en France ou dans un autre pays.
On a bien compris que vous vendiez les études en France. Alors, ceci dit, l'Arabie Saoudite distribue des bourses islamiques, y compris à des étudiants non musulmans, comme par exemple les étudiants malgaches.
Tout à fait, tout à fait.
Surprenant.
Le principe pour l'Arabie Saoudite, c'est de préparer l'après-pétrole. Donc, c'est un développement international à vocation économique et peut-être aussi confessionnelle. C'est un sujet qui peut entraîner des débats. Toujours est-il qu'avec beaucoup d'argent, c'est évidemment la possibilité des offres supplémentaires. Maintenant, un étudiant doit aussi, au-delà de l'argent, se préoccuper de la qualité de l'enseignement, par exemple.
Alors, tous les pays, bien sûr, cherche à attirer des talents d'Afrique subsaharienne notamment pour tisser ensuite des liens économiques. Ça, je crois qu'on l'a compris. Pour les auditeurs évidemment qui sont candidats à des études en France, ce qui les intéresse, c'est de savoir s'ils peuvent rentrer dans les cases définies par la politique française. Nous sommes en ligne avec Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Dites-nous, quelle est aujourd'hui la situation des étudiants sénégalais candidats aux études en France ?
D'abord, la situation, si on regarde les chiffres, elle est impressionnante parce que le Sénégal est le premier pays, si on regarde le nombre d'étudiants sénégalais en France, à peu près 9500, par rapport au nombre total d'étudiants sénégalais, c'est-à-dire environ 150 000. Et quand on regarde le nombre d'étudiants sénégalais qui vont à l'étranger, les deux tiers d'entre eux, deux sur trois, vont en France. Alors, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'il y a eu un gros effort pour augmenter le nombre de visas délivrés aux étudiants sénégalais, puisque pour donner un seul chiffre, entre 2014 et 2016, nous avons augmenté de 50% le nombre de visas délivrés. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Il y a bien sûr encore des progrès à faire, et c'est ce que nous faisons ici avec Campus France, en faisant beaucoup de manifestations dans les universités, dans les lycées au Sénégal, en développant des tutoriels, des vidéos, pour que tout soit dématérialisé, que tout soit beaucoup plus simple et plus pratique et plus court aussi.
Mais pourquoi vous avez augmenté, vous avez doublé le nombre de visas accordés à des étudiants sénégalais? Ils ne sont pas devenus brutalement en quelques années deux fois meilleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la politique française qui a évolué vis-à-vis des étudiants sénégalais?
Je crois que d'abord, les étudiants sénégalais sont très bons. Il y a un très bon système de formation ici. Et je crois que aussi, les Sénégalais ont une tradition historique de venir en France se former, comme leurs anciens. Et donc des liens aussi ont été établis entre les universités, entre les écoles. C'est par exemple intéressant de noter qu'aujourd'hui même, Galileo, un groupe français, va racheter une des plus grandes écoles de management en Afrique, qui est au Sénégal, l'Institut supérieur de management. Donc il y a aussi des universités françaises qui s'installent ici au Sénégal. Pour
du moins des fonds d'investissement. Du moins des fonds d'investissement, si ce n'est des universités françaises. Mais c'est vrai.
Management, l'université de Montpellier se sont installées ici au Sénégal.
Tout à fait. Alors, ce nombre de visas étudiants a doublé. La France s'intéresse de nouveau de très près au Sénégal. Ça s'inscrit donc dans une.
Et au passage, si je peux me permettre, une instruction aussi qui a été née au plus haut niveau de l'État. Macky Sall, le président du Sénégal, était en France fin décembre. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que des entretiens, aussi bien avec le président de la République qu'avec le Premier ministre, ce qui revenait sans cesse, c'est « nous voulons, du côté français, accueillir de plus en plus d'étudiants sénégalais ».
Ça s'inscrit dans une dynamique pragmatique du même ordre que le retour des entreprises françaises sur le continent, comme on a pu le constater par exemple avec la présence très remarquée du MEDEF, le patronat français au sommet Afrique-France de Bamako, qui était venu avec des universités, avec des entreprises françaises. Tout ça, c'est la même dynamique, l'enseignement supérieur,
oui,
l'économie, les entreprises.
Je pense qu'on a compris que l'Afrique était une opportunité extraordinaire pour l'Europe et que la France avait ici en Afrique des atouts qui sont précieux, qui sont uniques et qu'il ne faut faire fructifier dans un esprit de partenariat entre la France, l'Afrique, le Sénégal.
Alors évidemment, la réalité n'est pas vécue par les étudiants africains, n'est pas toujours la même par rapport aux stratégies déployées, par rapport aux statistiques que vous donnez. Je voudrais qu'on donne la parole à un étudiant qui nous appelle de Dakar. Cher, bonjour, vous avez 27 ans.
Oui, bonjour, vous allez bien?
Oui, très bien, cher. Alors vous êtes étudiant en France ou au Sénégal? Là, j'ai pas bien compris.
Bah, j'étais étudiant en France.
Vous avez été étudiant 3 ans en France, c'est bien cela?
Oui, jusqu'à la licence, après je suis retourné au pays.
Donc, vous êtes retourné au pays avec votre diplôme de licence en gestion?
Oui, en gestion.
À la Sorbonne?
Oui, à la Sorbonne, oui, en pension de FAS.
À Paris 2, d'accord. Donc, succès?
Oui.
Vous êtes fier ou pas?
Oui, c'est moi fier, oui.
Oui, d'accord. Non, mais est-ce que vous êtes fier, cher, d'avoir obtenu votre licence dans une université prestigieuse en France?
Très fier même. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour remercier d'abord la France, qui m'a permis d'avoir mon diplôme professionnel et de revenir au pays, pour donner le meilleur de moi-même.
Je suis très fier. Vous n'avez pas souhaité continuer avec un master en France?
J'espère, mais pas maintenant, parce que déjà, avec la formation acquise là-bas en France, moi, je suis bien au top, quoi.
Ouais, vous êtes déjà bien au top avec une licence, d'accord. Cher, comme le bilan de la procédure pour parvenir à décrocher le visa étudiant et une inscription dans une université en France, quel est ce bilan pour vous sur tout ce que vous avez dû effectuer comme procédure?
Franchement, si je dois faire un bilan, je ferai un bilan positif. Et parce que déjà, au début de mes démarches, parce qu'ici, là, dans la région où je suis en Casamance. Et en Casamance, ici, il y a une structure française qui est l'Alliance franco-sénégalaise.
Oui.
Et après, c'est grâce à l'Alliance que j'ai eu mes entretiens en France, parce que j'ai débuté là-bas les procédures, parce qu'il y a un bureau qui est là-bas, chargé d'orienter les étudiants qui veulent faire des études en France.
Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux auditeurs qui nous écoutent, qui se plaignent, hein? On a quand même beaucoup de messages qui nous disent « mais la procédure est très compliquée ».
Oui, actuellement la procédure est trop compliquée par rapport avec les plateformes qu'ils ont mises. C'est facile, mais beaucoup d'étudiants ont des problèmes avec la conversion de leurs documents. La conversion de leurs documents.
Quelle conversion? À quoi faites-vous allusion? Les diplômes notamment?
Oui, les diplômes. Parce que dans la plateforme, pour maintenant, ce n'est plus la peine d'envoyer les documents par courrier et par mail. Maintenant, les documents, vous les convertissez et vous les envoyez directement sur la plateforme.
Oui, sur le site Internet, comme ça se fait avec de nombreux pays à l'étranger aussi qui ont les mêmes procédures.
Oui, mais maintenant, pire, beaucoup d'étudiants n'ont pas d'ordinateur. encore, même s'ils ont les, s'ils ont un ordinateur aussi, mais le problème en est qu'ils n'ont pas des logiciels de conversion pour convertir le document.
Enfin, ceci dit, il me semble que pour les bacheliers, même en Casamance, aujourd'hui, qui veulent s'inscrire à l'université au Sénégal, tout est numérisé maintenant, hein, les procédures même de l'enseignement supérieur sénégalais. Donc, vous êtes bien obligés tous de passer par Internet.
Oui.
Même si vous voulez rester au Sénégal. L'entretien, il y a beaucoup d'étudiants qui nous parlent de l'entretien que vous êtes obligé de passer avec les autorités françaises. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour vous?
Bah moi ça s'est bien passé, alhamdoulilah, parce que déjà quoi. J'espère que presque ils m'ont. Je sais pas quoi. Parce que avant de rallier à Dakar, on m'a mis en rapport avec un cabinet, là, un cabinet d'entretien. Donc de ce fait que là-bas, vous allez faire des entretiens préalables, par exemple, ils vont te faire des entraînements. Donc de ce fait qu'arriver là-bas à l'ambassade ou bien arriver là-bas.
Vous voulez parler d'une entreprise, d'un cabinet privé qui vous fait payer pour vous entraîner à passer les entretiens?
Voilà, c'est ça.
Vous avez payé pour ce prestataire privé?
J'ai payé trois entretiens. Trois entretiens, ça fait 150 000 durant toute l'année.
Ah ouais, c'est quand même pas donné.
150 durant tout le temps. C'est pour cela, c'est ce qui m'a facilité mon entretien, quoi.
Merci beaucoup, cher, d'avoir été en ligne avec nous. Monsieur l'ambassadeur Christophe Bigot, qu'est-ce que vous évoque ce témoignage d'un étudiant qui a réussi, qui est parti étudier en France, qui est revenu après sa licence?
D'abord, je vois qu'il est satisfait. Cela explique peut-être pourquoi il y a autant d'étudiants sénégalais en France. Après, sur la procédure... J'ai bien noté ce qu'il a dit, et il faut voir que c'est un processus dynamique. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, nous avons 20 personnes ici, à Saint-Campus France, à l'Institut, d'ailleurs pas seulement à Dakar, mais aussi à Saint-Louis, à Siguinchor, à Kaolack, qui sont là pour aider les étudiants. C'est très important. Ensuite, il y a des processus électroniques. Maintenant, vous avez des tutoriels, des vidéos, pour expliquer vraiment ce qui est attendu, pour simplifier au maximum la procédure. Et enfin, dernier point, je voudrais signaler un chiffre. Aujourd'hui, 80% des demandes répondent une réponse positive. 80% des demandes, c'est-à-dire que si une fois que vous êtes préinscrit à l'université, 80% de vos demandes de visa vont recevoir un avis positif. Donc la question, c'est évidemment, c'est de pouvoir obtenir une inscription, une préinscription par l'université. Et là, c'est la question des filières, c'est la question du parcours pédagogique qui est posée pour qu'il y ait la meilleure adaptation possible entre la demande d'inscription et ce que propose l'université.
Bien sûr, vous restez en ligne avec nous, monsieur l'ambassadeur. Je voudrais passer la parole à Campus France, Nabil M. Silti et Didier Rayon. Les ambassades nous disent effectivement, c'est pas vrai, il y a de moins en moins d'échecs et de refus, mais en réalité, à partir du moment où on arrive à Campus France, il y a déjà un énorme écrémage de la part de l'agence Campus France qui regarde les dossiers et qui en élimine déjà beaucoup en disant de toute façon, vous n'avez pas les documents nécessaires pour pouvoir postuler à des études en France, non? Est-ce que je me trompe, Nabil M. Silti?
Tout à fait. Alors, permettez de revenir sur le cas de Cheikh pour préciser les mesures de simplification qui ont été mises en place par Campus France et par Campus France Dakar en dématérialisant la procédure de candidature. Jusqu'à il y a quelques temps, l'année dernière, les candidats devaient déposer un dossier papier. Vous voyez, aujourd'hui, il suffit qu'ils scannent chez eux leur document, leur diplôme.
Qu'ils scannent chez eux. Vous voyez, déjà là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui n'est pas forcément ça.
Voilà, en tout cas, qu'ils scannent des documents et qu'ils mettent à disposition de l'Espace Campus France un formulaire électronique. C'est une mesure de simplification parce que le document n'est plus à déposer à l'Espace Campus France. Alors, vous parliez d'écrémage. Je n'utiliserai pas ce terme-là. À vrai dire, en fait, il y a d'abord un service d'orientation, d'aide à la préparation du projet d'études en amont. Et c'est là où les officines interviennent parce qu'elles viennent en concurrence dans certains pays au service proposé par l'Espace Campus France.
Quand vous parlez des officines, c'est les petites boîtes privées qui disent, viens, on va te préparer ton dossier, on va t'aider. C'est la même chose pour candidater aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne.
Tout à fait, voilà. Donc c'est bien dommage que chaque EU a payé 150 000 francs CFA.
Parce que vous trouvez que c'est pas utile?
Je trouve que le service de l'Espace Campus France et de l'ambassade de France à Dakar est en mesure d'apporter cette préparation, ce service d'aide à la constitution d'un projet d'études et d'un dossier de candidature. Vous voyez, donc on est plutôt dans cette procédure-là. Donc, pas d'écrémage pour répondre à votre question. Par contre, oui, un service d'aide à la préparation du projet d'études.
Vous restez avec nous. Je vous lis le message de Phénoménal qui vient de Nouadhibou en Mauritanie. Je reconnais que la procédure est longue et coûteuse, mais une fois en France, ça vaut le coup. J'apprécie les études que j'y fais. Coûteuse, non, pas forcément pour les universités publiques. On va en parler, bien sûr, du rapport qualité-prix des universités publiques françaises. Vous restez tous avec nous, les voisins et les voisines. Vous nous avez appeler au 33 1 84 22 71 71 également pour toutes vos questions. 7 milliards de voisins, retour dans 3 minutes maintenant sur RFI. Restez avec nous.
Écho d'ici.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On parle éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, venir étudier en France. Nous sommes en pleine période des dossiers de candidature auprès des agences Campus France. Vos questions, vos témoignages au 33 1 84 22 71 71. Tiens, je vous pose une question. Alors, évidemment très simple, mais très intelligente, je trouve, de Cher qui est à Calavi, au Bénin. Je pose la question justement à nos invités de Campus France, Nabil M. Silti et Didier Arayon. Quels sont les avantages à passer par Campus France et venir étudier en France? Allez, c'est l'occasion de vendre la France.
Alors,
là.
Pour ce qui est de venir étudier en France, concrètement, quand on interroge les étudiants africains, la hiérarchie est très simple. D'abord, ils recherchent une qualité d'enseignement, donc la compétence. Ils cherchent le prestige des diplômes et la possibilité d'utiliser et négocier ces diplômes dans le pays. Une ouverture sur le monde, un contexte favorable à la réussite et un bon rapport qualité-coût. Voilà, dans l'ordre, ce qui motive le plus les étudiants africains à venir en France. Et habituellement, si on en croit le taux de satisfaction qu'on mesure, qui est d'à peu près 90%, c'est certainement les arguments qui portent le plus chez les étudiants et qui sont vérifiés donc par ceux qui passent dans nos établissements.
Nous avons également dans l'émission Christophe Bigot, ambassadeur de France à Dakar. Est-ce que vous souhaitez ajouter un complément sur ce qui séduit les étudiants encore aujourd'hui au Sénégal, bien qu'on ait reçu beaucoup de messages sur la concurrence des pays anglophones, hein, Mustapha Bamako nous dit c'est beaucoup plus simple si on veut étudier aux États-Unis. De toute façon, même si un master français reste bien vu, la France n'est plus le passage obligé maintenant. Daouda à Bamako, aujourd'hui les universités françaises offrent moins de perspectives que les grandes universités anglophones au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie ou encore au Japon. Monsieur l'ambassadeur à Dakar.
Nous sommes entrés dans un monde globalisé. L'éducation est évidemment soumise à la concurrence et elle est la bienvenue. D'ailleurs, elle nous oblige, nous aussi, à nous améliorer. Je prends par exemple la filière d'excellence qui a été mise en place avec les classes préparatoires de l'Huile Grande, Henri IV, du lycée du Parc, et qui permet, par exemple, chaque année, d'avoir entre 4 et 5 élèves sénégalais à l'école polytechnique. Alors, au-delà de l'école polytechnique, qui est un cas particulier, moi, je dirais aussi que... On dit que c'est long, mais la procédure, elle commence en janvier, elle finit effectivement en juillet, pour ceux qui ont besoin d'attendre le résultat du bac. Ce n'est pas une procédure longue, c'est une procédure qui n'est pas coûteuse, elle est même comparée avec nos amis anglo-saxons très faible. Il faut rappeler quand même qu'un étudiant sénégalais ou africain qui va étudier en France, il va payer les droits d'inscription, 450 euros, et il faut savoir que pour le contribuable français, le prix, d'ailleurs qu'il soit africain ou français, ce sera 10 000 euros. Vous connaissez les tarifs pratiqués dans les universités anglo-saxonnes. Donc je dirais que
on est
le
à plusieurs
délai
dizaines
n'est pas
de milliers de
cela,
dollars.
Et le coût est complètement différent.
Parce que les universités publiques sont financées par l'État et que donc le coût réel d'un étudiant est supporté par l'État et pas par l'étudiant lui-même, il faut le dire. L'étudiant dépense beaucoup d'argent, mais pour se loger, pour se nourrir, pour acheter ses livres, etc. Mais les frais d'inscription dans les universités publiques françaises sont encore extrêmement faibles.
Exactement. Je crois que c'est quand même un élément qu'il faut rappeler parce que ça fait partie de l'effort de la France en faveur des étudiants, qu'ils soient français ou étrangers.
Ouais, ça veut dire qu'on peut dire, finalement, sans langue de bois, aux étudiants africains candidats aux études dans les universités publiques en France, que c'est comme s'ils obtenaient une bourse du gouvernement français, puisqu'une année d'études va coûter 4, 5 000, 6 000 euros à l'État français, alors qu'il va payer 180 euros pour une année de licence, le double pour un master, mais donc évidemment rien à voir avec le coût réel, la dépense réelle pour l'université, pour l'État français. Oui, Christophe Bigot, je vous en prie.
Il faut voir aussi en fait que nous offrons aussi des bourses là, qui couvrent les frais, je dirais, de logement et de vie courante. Mais là, on le fait pour les doctorants et les post-doctorants avec un total d'environ 80 Sénégalais aujourd'hui qui bénéficient de bourses post-doc ou doc en France.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous donnons la parole à un auditeur qui est à Conakry, en Guinée-Conakry, pour une question. Bonjour Mamadou.
Bonjour.
Mamadou,
Emmanuel, comment allez-vous?
Eh ben, très bien, nous sommes ravis de vous accueillir chez les 7 milliards de voisins. Vous souhaitez poser une question à nos invités. Nous vous écoutons.
Je suis Mamadou Aliou Diallo de Conakry. Mmh. J'ai une question à poser. D'habitude, on constate que c'est ceux qui ont souvent le bac et ils ont tendance à postuler pour Campus France. Mais il y a une tendance en Guinée aussi souvent qui est là. Il y a des jeunes en fait qui ont fait plusieurs fois l'échec au bac. Et donc l'État offre des opportunités aux gens de faire des écoles professionnelles sans le bac. Donc ces gens, ça, en fait, ils ont le BTS. On leur offre une opportunité d'avoir le BTS de l'État. Mais il y a parmi ces gens, il y a d'autres qui ont envie de faire en fait qui ont envie de poursuivre leurs études au niveau de la France.
Oui. Donc c'est votre cas, vous êtes titulaire d'un BTS en Guinée-Conakry sans avoir eu le bac et vous souhaitez savoir si vous pouvez postuler à des études en France.
Exact.
Ouais. Eh bien écoutez, on va vous répondre. Qui peut répondre? Nabil M. Siltid, Campus France.
Alors, certains diplômes sont reconnus par les établissements d'enseignement supérieur français. En l'occurrence, ce BTS que vous avez passé, qui est reconnu en Guinée, je vous invite en fait à entrer en contact avec un centre qui vous permettra de manière assez rapide de savoir si vous pouvez postuler, prétendre à des études supérieures en France avec le BTS. Ce centre s'appelle Enik Narik. Donc voilà.
Donc on va mettre le lien sur notre page 7 milliards de voisins, Enik Narik. Et là, à ce moment-là, il suffit de rentrer le nom du diplôme et l'établissement qu'il a délivré.
Et de communiquer le document.
Et on a
lui-même.
Une réponse.
Tout à fait, on a une réponse pour savoir si on peut prétendre à des études supérieures ou pas.
Voilà. Merci beaucoup Mamadou de nous avoir appelé. Je souhaiterais donner la parole à Alexis Andrès, qui est conseiller culturel à l'ambassade de France à Alger. Bonjour Alexis Andrès, merci d'être avec nous.
Bonjour Emmanuel Bastide, bonjour à vos auditeurs et bonjour aux autres intervenants.
Conseiller de coopération et d'action culturelle donc à l'ambassade de France en Algérie. Vous aussi, en Algérie, le nombre de visas a considérablement augmenté, délivré aux étudiants algériens. Alors que se passe-t-il? Un nouvel engouement de la France pour les étudiants algériens?
Alors, en termes de chiffres, effectivement, le nombre de visas étudiants est passé en 2014 de 3484 à 7400 en 2016. C'est aussi accompagné, notamment cette tendance se poursuit cette année, par une augmentation du nombre de dossiers déposés pour des études en France, puisque sur la campagne 2016, nous avions près de 20 700 dossiers reçus et traités, et que pour la campagne 2017, nous avons déjà 28 000 dossiers qui ont été créés sur la plateforme Campus France.
28 000 dossiers, sur ces 28 000, combien vont obtenir à la fin du parcours du combattant le visa étudiant pour venir en France, en pourcentage?
Alors, en pourcentage, par rapport, puisque je ne vais pas me hasarder sur les pronostics 2017, mais pour 2016, vous aviez, je dirais, 20 700 dossiers, sur ces 20 700 dossiers, effectivement, 7 400 départs. Mais le taux de refus consulaire n'a été que de 16%. Ce qui veut dire que la majorité des étudiants sont en fait des étudiants qui ont créé un dossier, mais qui ensuite, par ce processus d'accompagnement de Campus France, soit se sont rendus compte que leur projet n'était pas encore assez mûr et ont donc préféré renoncer, soit éventuellement n'ont pas eu, et c'est un sujet qui a été abordé, d'inscription dans une école. Mais donc, il faut voir que les étudiants qui déposent in fine une demande de visa, le taux de refus est très faible, puisqu'on est à seulement 16%. De taux de refus consulaire. Ce qui prouve bien que la démarche Campus France est une démarche d'accompagnement qui permet aux étudiants de, je dirais, aller jusqu'à la dernière étape que lorsque leur dossier est suffisamment bien construit.
Oui, alors justement, un dossier suffisamment bien construit. On avait par exemple cet auditeur qui nous appelait de Conakry pour savoir si sans le bac, mais titulaire d'un BTS dans son pays, en Guinée, il pouvait prétendre à des études. On l'a redirigé vers un centre qui va lui dire si son équivalence peut suffire. Mais enfin, il est clair que quand on n'a pas le bac, les chances sont tout de même minimes. Juste pour que nos auditeurs comprennent bien, on a un Guy, par exemple, qui est à Abidjan, qui dit « J'ai 23 ans, j'ai arrêté mes études en philo pendant plusieurs années, faute de moyens. Je voudrais les reprendre aujourd'hui, si possible en France. Quelles sont les chances que je puisse obtenir un visa avec Campus France ?» La première question à se poser, c'est quelles sont les chances que je puisse obtenir une université, c'est-à-dire une admission dans une université française, hein. C'est bien cela, Didier Rayon ?
Oui, tout à fait. Et évidemment, les chances sont quand même minimes dans un cas de figure comme celui-ci. L'objectif des établissements est quand même d'attirer des étudiants qui auront le niveau, qui pourront suivre. Donc chaque établissement évalue ce niveau.
Et qui vont réussir à obtenir le diplôme, tout comme c'était fait. Le cas de cet auditeur qui nous a appelé Casamance du Sénégal et qui avait obtenu sa licence à Paris 2 Sorbonne. Autre question, de nombreuses questions d'auditeurs. Je suis boursier pour mes études au Cameroun. Existe-t-il une procédure spécifique pour les étudiants comme moi avec Campus France? Quel type d'aide financière peut-on obtenir? C'est la même chose d'ailleurs, j'imagine, pour un étudiant qui est en Algérie, qui a une bourse. Est-ce qu'ensuite, il va devoir fournir les mêmes conditions de ressources financières pour pouvoir obtenir une inscription et un visa étudiant? Ou est-ce qu'il peut être aidé, Nabil Msilti?
Alors, j'orienterai notre candidat vers une plateforme qui s'appelle campusbourse.org, qui est proposée par l'agence Campus France. Elle centralise l'ensemble des offres de bourse existantes et proposées par l'ensemble des acteurs, que ce soit gouvernementaux, collectivités territoriales, etc. Par ailleurs, une précision que doit connaître notre ami, pour déposer une demande de visa, il faut justifier de ressources à hauteur de 615 euros par mois, ce qui représente globalement autour de 7 000 euros par an, ce qui reste plus qu'abordable. Vous parliez tout à l'heure du coût de la formation en France, donc on se rend compte que la seule contrainte financière serait de pouvoir justifier de ce montant, un peu plus de 7 000 euros, pour pouvoir obtenir un visa dès lors qu'on a été accepté par un établissement d'enseignement supérieur privé ou public, bien entendu.
Une question d'un auditeur à Dakar, ça c'est pour vous, monsieur l'ambassadeur Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal. Mamadou qui nous dit « J'ai été préinscrit à la Sorbonne 2 années de suite, mais chaque fois mon visa a été refusé, je n'ai pas pu partir. Comment expliquer cela ?»
Alors, le taux de refus consulaire, comme c'était précisé, est d'environ 20%. Donc, si quelqu'un a été inscrit à la Sorbonne et qu'il n'a pas pu se rendre en France, c'est donc que soit il ne vérifiait pas les conditions de logement ou les conditions de ressources pour pouvoir se rendre en France, parce que nous souhaitons que les étudiants sénégalais en France s'intègrent, puissent vivre décemment. Et c'est pour ça qu'il y a ces conditions. Au passage, c'est vrai, je pense qu'il y a des facteurs d'amélioration, et là je pense en France, par exemple si le CROUS pouvait proposer plus de logements, accueillir plus d'étudiants africains, ce serait bien, et par ailleurs, du côté bancaire, et je crois que c'est aussi la démarche de la start-up dont vous avez parlé au début, si les banques pouvaient effectivement pouvoir accorder des prêts ou des cautions qui permettraient aux étudiants plus facilement de réunir les sommes, parce que 615 euros, c'est vrai que cela paraît une dépense peut-être modeste vu de France, mais ici, cela reste effectivement un montant élevé.
Plus de 7 000 euros à l'année. Alors, vous avez évoqué le problème du logement. Un auditeur aussi également à Dakar, cher, nous dit « J'ai fait la procédure avec Campus France, mais je n'ai pas pu trouver de logement à des prix raisonnables pour moi, faute de moyens. Campus France n'a rien fait pour m'aider. Je suis resté au Sénégal. » Est-ce que c'est la vocation de Campus France d'aider les étudiants candidats aux études en France à également trouver un logement?
Campus France peut conseiller, orienter, mais ne peut pas trouver un logement pour les étudiants étrangers, notamment lorsqu'ils ne sont pas boursiers du gouvernement français ou boursiers du gouvernement étranger. Donc, effectivement, il existe un certain nombre de recommandations, de conseils, mais la difficulté a été signalée par Monsieur l'ambassadeur. Donc, on a besoin de trouver, d'offrir en fait des alternatives, des solutions à des étudiants lorsqu'ils sont en mobilité individuelle.
Alors, évidemment, pour les étudiants boursiers du gouvernement français, ça c'est l'élite de l'élite. Ils sont pris en charge et donc on leur trouve un logement, généralement à la cité universitaire, si c'est en région parisienne. Alors, justement,
Mamadou, si je peux intervenir.
Oui, bien. Alors, attendez, je vais vous donner la parole. Oui, bien sûr, pour parler de votre start-up. Je voudrais poser une dernière question à la place d'un auditeur, parce que je me fais le porte-parole des auditeurs. Mamadou, à Bamako, au Mali, nous dit « Ça fait 3 ans que j'ai fait les procédures. Rien n'avance. J'ai des préinscriptions qui ont été annulées au dernier moment. Le consulat exige des garanties financières que je ne peux pas apporter. » Donc là aussi, on voit bien que c'est ces garanties financières sont largement un barrage autant que le barrage académique, c'est-à-dire des notes aux examens, de fournir un bon dossier de réussite aux études dans son pays d'origine. Duplex Eric Kamgang, vous êtes Camerounais, vous avez 32 ans, vous avez été étudiant en France, diplômé en France, où est-ce que vous avez étudié d'ailleurs vous-même?
J'ai étudié à Skema Business School.
Oui, donc une école de commerce, privée.
Privée, oui.
Et vous avez lancé cette start-up, Studly, qui a a été d'ailleurs remarqué par l'Agence française de développement et vous avez été
et
d'ailleurs
la BPI.
Voilà et la Banque publique d'investissement. Vous avez gagné un prix de combien d'ailleurs par la France?
Un prix de c'était de 10 000 euros et une invitation à Bamako
où on a,
au sommet Afrique-France.
Ouais. Oui. Pour parler de ce service que vous êtes en train de lancer. Alors c'est une entreprise à but lucratif. Expliquez-nous exactement à partir de quelles lacunes vous êtes parti et de quelle expérience difficile pour vous vous êtes parti.
Merci de me passer la parole. Je suis parti concrètement de mon expérience personnelle parce qu'il y a 7 ou 8 ans, j'étais à la place des étudiants qui viennent de poser des questions justement et j'ai suivi le parcours Campus France d'ailleurs que je remercie et que j'ai trouvé très simple. Pour moi, c'est mon cas. Et après Campus France, et c'est où j'ai connu toutes les galères possibles. Parce qu'il fallait justifier justement mes ressources pour pouvoir obtenir mon visa. Et pour le faire, comme 80 à 70% des étudiants au Cameroun, en tout cas, ou certains en Afrique, doivent le justifier à travers ce qu'on appelle une attestation bancaire ou une caution bancaire. Voilà, ce sont les garanties financières. Ils doivent justifier après, à travers une attestation d'une banque, comme quoi ils disposent de 615 euros qui va lui être versé lorsqu'il arrivera en France.
L'attestation de virement irrévocable.
Voilà, c'est ce document-là. Et pour l'obtenir, c'était très difficile. Déjà, l'étudiant, et c'est ce que j'ai fait, j'ai déposé, je suis allé auprès d'une banque au Cameroun, j'ai déposé de l'argent.
Vous aviez l'argent, donc c'était pas un problème.
C'est un problème aussi, mais concrètement, quand on veut étudier en France, forcément, on doit dépenser de l'argent. Il faut pas qu'on se mente, parce que ça a un coût, les études.
Enfin, en tout cas, la somme, vous l'aviez, les 615 euros par mois, donc plus de 7 000 sur l'année, c'est bien.
Exactement, les 7 000 euros sur l'année, j'avais à travers mes parents, et j'ai les déposer sur le compte bancaire. Mais le problème avec cette solution-là, et ce que tous les étudiants font, c'est qu'ils doivent payer des frais bancaires assez importants, au Cameroun notamment. Les banques prennent en moyenne 12% de frais. Donc concrètement, une banque peut prendre 800 euros pour juste délivrer cette attestation.
C'est énorme
pour un étudiant qui n'a pas beaucoup d'argent. Et compte tenu de ce problème, il y avait un autre problème, c'est que pour l'obtenir, en moyenne, une semaine, c'est long pour un étudiant qui veut avoir son visa rapidement. Et troisièmement, le problème à l'arrivée en France, l'étudiant doit passer presque un mois sans ressources parce qu'il doit d'abord ouvrir son compte bancaire. Quand un étudiant arrive, il a en moyenne un mois, si les chiffres sont exacts, pour pouvoir ouvrir son compte parce qu'il faut qu'il obtienne un document de l'OFI et tout ça. Donc ça lui prend le temps. Donc en ce temps-là, il ne peut pas encore recevoir vu qu'il faut qu'il ait un RIB en France pour pouvoir rapatrier ses fonds chaque mois.
Ouais, de la banque. Donc il a intérêt à avoir des parents en France ou être parti avec
effectivement.
Un peu de cash sur lui. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous proposez avec votre start-up? Comment vous proposez de simplifier ces procédures et surtout de court-circuiter ces frais bancaires énormes?
Exactement, je propose une solution juste pour un quatrième problème qui est très important aussi. Un étudiant vient de le poser tout à l'heure, il n'avait pas de parents ici, comment trouver un logement? Voilà. Et aussi ça, cette attestation, moi je n'avais pas de logement en France, je suis arrivé, je n'avais pas de logement, il me fallait trouver un logement. Et pour le faire en France, à Paris notamment, il faut un garant financier, c'est ce que je n'avais pas. J'ai cru que mon attestation bancaire d'une banque au Cameroun pouvait prouver mes ressources auprès du bailleur.
Et c'est pas le cas.
Il m'a dit non. D'ailleurs, il avait
le bailleur, il dit « je ne connais pas votre banque camerounaise ». C'est ça. Même si vous payez 12% de frais, ça ne m'inspire pas. Alors, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui qui va être disponible, commercialisé dans les semaines ou mois qui viennent pour les Camerounais? Et puis ensuite, j'imagine que vous avez des visées panafricaines.
Effectivement. Ce que je propose aujourd'hui, c'est simple, c'est faire la même chose, mais directement avec les banques françaises. Donc, pour les étudiant, son attestation, il fera la même chose, c'est-à-dire déposera ses fonds auprès de, du moins de deux façons, soit auprès de Studélien en local, parce que nous serons présents dans son pays. Nous sommes déjà présents
au Cameroun. Vous ferez l'intermédiaire entre l'étudiant et la banque française.
Effectivement, nous sommes l'intermédiaire entre l'étudiant et la banque française. Les banques françaises avec qui on a déjà des partenariats, qui sont très intéressés notamment, et qui pourront servir directement l'étudiant, c'est-à-dire parce que l'étudiant, déjà, il faut comprendre, il ne peut pas ouvrir un compte bancaire depuis l'étranger. C'est interdit en France. Donc ça n'existe pas comme solution. Et l'étudiant fera la même procédure qu'une banque locale, sauf que ce sera une attestation directement délivrée depuis la France. Ça aura l'avantage d'être moins cher, déjà. Deuxièmement...
Vous ne prendrez pas 12% de commission?
Non, pas 12% de commission.
Combien?
Vraiment cher, en tout cas, moins de la moitié de ce que les banques proposent aujourd'hui. C'est déjà intéressant. Ça dépend aussi des marchés, parce qu'au Maroc, ce n'est pas la même chose qu'au Cameroun. Donc, les marchés sont différents. En Algérie, notamment, les banques ne sont pas aussi chères qu'au Cameroun. Voilà. Et deuxièmement, c'est digitalisé. C'est-à-dire, de chez lui, avec ses parents, il peut souscrire à l'offre. Donc, en ligne.
En faisant donc le virement bancaire via Studeli. Et ensuite, ça arrive dans une banque française.
Exactement, ça arrive dans une banque
française.
C'est génial. C'est génial pour lui. Il n'a pas de paperasse, il n'y a pas beaucoup de choses. Et la deuxième chose, c'est qu'au Cameroun, déjà aujourd'hui, on a eu la chance d'être présent. On sera présent dans les institutions françaises.
Combien de pays potentiellement en Afrique subsaharienne sont concernés par ces frais bancaires beaucoup trop importants et donc par le développement de votre start-up ?
Combien de pays ? Je dirais tous ces pays-là. Voilà, parce
tous ces
que,
pays, c'est-à-dire toute l'Afrique subsaharienne,
francophone, même l'Afrique du Nord, oui, le Maroc,
Les banques africaines vont être contentes, ou en tout cas les banques internationales basées en Afrique qui prennent de gros frais bancaires.
Et oui, elles sont contentes aujourd'hui, mais aujourd'hui l'idée c'est pas
on va
les court-circuiter, mais l'idée ce n'est pas seulement on va les court-circuiter certes, mais on veut travailler aussi plus tard avec elles parce que l'étudiant constitué c'est 7000 euros, c'est beaucoup, et on va essayer de trouver un arrangement pour qu'ils puissent prêter cet argent aux étudiants. C'est ça l'intérêt.
Nous accueillons un nouvel auditeur qui veut questionner nos invités. Willy est à Libreville et nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Willy.
Bonjour Emmanuel Bastide, bonjour à tous les auditeurs de RFI et meilleurs voeux à tout le monde. Alors moi j'interviens pour louer la nouvelle politique en matière d'éducation, c'est-à-dire des étudiants qui souhaiterait aller étudier en France, parce que ma fille est en France actuellement, ça fait 3 ans, elle est passée par Campus France, les choses se sont passées dans les règles de l'art, elle a obtenu une bourse de l'Agence nationale des bourses et stages, qui fait un travail remarquable, et aujourd'hui elle étudie, c'est vrai que l'année dernière elle n'a pas pu avoir son BTS, elle a raté, elle a 4 matières qu'elle va reprendre, je crois que cette année ça devrait aller. C'est une très bonne politique menée par Campus France qui a considérablement limité les refus de visa. Quand votre dossier est en bonne et due forme, qui est passé par Campus France et que vous avez une bourse, ou même vos parents présentent les moyens de pouvoir subvenir à vos besoins, parce que j'ai par ailleurs ma nièce, qui est parti le mois dernier, qui est à Reims, qui est passé par Campus France, et qui a obtenu son visa sans problème, et qui y est actuellement. Donc je crois que c'est une très bonne politique qui a été menée. Là, il y a moins de refus. Quand votre dossier est en bonne et due forme, et complet, je crois qu'on vous octroie votre bourse.
Bon, merci Willy pour ce témoignage positif. Pour le contrebalancer, j'ai le témoignage de Beka qui est à Dabou, une ville proche d'Abidjan. Pour constituer le dossier du visa, l'ambassade demande, nous dit Beka, les bulletins de salaire des 3 derniers mois, donc des tuteurs, enfin des parents hein, de la famille. Alors lorsque les parents sont commerçants, quels documents doit-on apporter en substitution de ces bulletins de salaire, sachant qu'on est quand même sur le continent subsaharien, dans une économie informel à 80%. Qui peut répondre à cette question-là, Nabil M. Silti ? Je sais qu'il y a des questions qui sont parfois un petit peu techniques.
Oui, c'est le cas en l'occurrence. En fait, la difficulté, c'est de justifier justement des ressources du garant, quelque part. Dès lors, parce que le garant peut fournir une attestation, mais il faut qu'il prouve un peu que lui-même a des ressources suffisantes pour couvrir les frais liés à la scolarité et les études du candidat en France. Je ne saurais pas vous dire exactement dans le pays de ce candidat exactement quel type de document il pourrait présenter, mais je sais qu'effectivement, une présentation des justificatifs, des relevés bancaires ou de salaire de la personne qui se porte caution ou garante et sans exiger.
Ou de l'imposition fiscale éventuellement.
Tout à fait. En France. Oui.
Voilà. Peut-être une question pour Christophe Bigot, ambassadeur de France à Dakar. Il y a une évolution récente, comme en témoigne le témoignage de Lincoln qui nous dit « Je m'apprête à postuler à nouveau cette année » parce qu'il n'a pas eu ses visas, mais cette fois... non, attendez, c'est pas ce message-là que je voulais vous lire. Attendez, parce que j'ai énormément de messages hein, sur le bureau du studio. Mais un auditeur auditeur qui nous disait, voilà, j'ai finalement fait le choix, à force d'avoir des refus de visa, j'ai fait le choix d'étudier dans une école privée à Dakar, qui est elle-même en relation et en partenariat avec une université, l'université de Picardie d'ailleurs, en France. Et de cette manière-là, je sais que je pourrais aller étudier en France. Est-ce que ça, c'est une tendance qui monte, Christophe Bigot ? Alors,
tout à fait. Je voulais justement en parler. C'est ce qu'on appelle les accords interuniversitaires, ce qu'on appelle la mobilité encadrée dans le langage technocratique. Bon, grosso modo, vous commencez au Sénégal, première, deuxième année, troisième année, et après, vous poursuivez en France. Et dans le cadre de ce dispositif, tout est beaucoup simplifié, évidemment, puisque, en quelque sorte, c'est l'école ici au Sénégal qui se porte un peu garant pour vous. Et donc, les choses sont plus simples, sont facilitées, et c'est quelque chose, évidemment, qu'on encourage, qui va un peu aussi dans le sens de ce que je disais avant, c'est-à-dire que quand il y a des écoles françaises qui viennent s'implanter ici au Sénégal, il faut qu'on soit beaucoup plus fluide, c'est-à-dire que on n'est plus dans un monde où on va faire forcément toutes ses études dans un même pays. On peut faire ses études au Sénégal, poursuivre en France, revenir au Sénégal et faire des allers-retours.
Oui, c'est Babacar qui posait cette question-là, en effet. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier conseil pour les auditeurs? Christophe Bigot en deux mots, Alexis Andrès aussi, qui est à l'ambassade de France à Alger.
En tout cas, moi, je veux dire très simplement, c'est que notre politique, c'est de continuer sur la même pente. C'est-à-dire que nous voulons augmenter d'une année sur l'autre, au moins de 25% le nombre de visas délivrés aux étudiants. Et nous mettons les moyens en face avec les effectifs de Campus France, les effectifs du consulat, pour de plus en plus aussi orienter les élèves. Il faut pouvoir leur expliquer comment marchent les universités en France et faire en sorte que leur parcours soit adapté à ce que demandent les universités, parce que malgré tout, on n'a pas suffisamment signé, je pense. Le problème est cette inadaptation. Et c'est pour ça que je vais me rendre spécialement en France début mars pour rencontrer des universités françaises et pour faire en sorte que, voilà, elles soient mieux à même de comprendre les besoins.
Que tout le monde se comprenne. Merci à vous tous. Didier Rayon de Campus France, également Nabil Msilti, Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal, et Alexis Andrès à l'ambassade d'Algérie. Merci à vous tous.